réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures?
Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller en ce mardi 17 mai avec Un autre jour est possible. Toute cette semaine, le jeune réalisateur Christophe Nangaoli évoque le cinéma français de ses aînés. Après la famille post-1968 dans les films d'Arnaud Desplechin, il revient sur les échos de la guerre d'Algérie dans la France d'aujourd'hui et dans les films réalisés par Dominique Cabrera. Autre génération, autre manière de parler et d'écrire sur le cinéma, je serai en deuxième partie avec Pascal Bonitzer, réalisateur, scénariste et longtemps critique de cinéma. Ses articles parus dans les années 80 et 90, et particulièrement dans les cahiers du cinéma, sont réunis dans un livre qui vient de sortir, La vision partielle, écrit sur le cinéma, aux éditions Capricci. Et on attend aussi ce matin Oriane Jeancourt, du magazine Transfuge, qui viendra nous dire pourquoi le dernier film de Bruno Dumont, en compétition à Cannes et au cinéma dès demain, et le film français à ne pas manquer en ce joli mois de mai. Un autre jour est possible, préparé avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre avec à la technique ce matin Hubert Jacaz. C'est parti.
Portrait de la France par 5 cinéastes contemporains. Une série avec Christophe Nangaoli.
Bonjour Christophe Nangaoli.
Bonjour.
Suite donc de ce portrait de la France par 5 cinéastes contemporains, après Arnaud Desplechin, et à travers Arnaud Desplechin, vous avez évoqué hier les nouvelles structures familiales. Aujourd'hui, avec Dominique Cabrera, les films de Dominique Cabrera, vous allez nous parler de l'héritage de l'histoire coloniale, comment elle est traitée par le cinéma français d'aujourd'hui. Dominique Cabrera termine en ce moment Corniche Kennedy, une adaptation d'un roman de Mélisse de Kerangal. Mais ce qui vous intéresse, comme d'ailleurs pour Arnaud Desplechin, c'est son premier film, son premier long-métrage, De l'autre côté de la mer, sorti en 1997.
Arrivée du vol Air Algérie en provenance de Reims, salle numéro 6, située au premier étage de l'aérogare. Arrival from the Air Algérie flight from Oran, gate number 6, located on the first floor.
C'est un film qui parle des années de plomb en Algérie, en France, dans les années 90. On va suivre le personnage de Georges, qui est un pied noir d'une soixantaine d'années, qui arrive en France pour se faire soigner la cataracte. Il va être soigné par un médecin français d'origine algérienne, Tarek.
Donc c'est la première bonne idée du film. Claude Brasseur joue le rôle d'un Algérien. Hein, puisque c'est un pied noir qui a décidé de rester en Algérie en 1962 et de prendre la nationalité algérienne. Et quand il vient en France pour se faire opérer, mais aussi pour échapper un peu aux violences de la décennie noire qui commence à faire des victimes en Algérie, il va rencontrer ici en France donc un Français d'origine algérienne joué par Roche Dizem.
Oui, il devra ouvrir les yeux. C'est ce que lui dira son médecin, Tarek d'ailleurs, juste après son opération. Vous allez voir Paris comme vous n'avez jamais vu Oran. Et en effet, il va voir Paris comme Oran, car la réalité des années de plomb en Algérie s'est transportée avec lui en France. Ce qui est assez troublant dans ce film, c'est que le problème des années de braise est sans cesse replacé dans un contexte historique plus large, notamment toute l'histoire de la colonisation algérienne. Georges va parler de la mort de son père qui a lieu en 1910, c'est pas une date hasardeuse, ça correspond à la grève des dockers et à l'émergence du drapeau algérien. Ce qui est important, c'est que Georges est un terrien, il possède une oliveraie, et que Tarek est un médecin ophtalmologiste, donc c'est un Français éduqué, C'est un Français avec un statut social et pourtant, il n'est pas satisfait de son état. Il ne se sent pas toujours considéré comme Français. Il reviendra dessus à plusieurs reprises, notamment sur l'histoire de l'obtention de sa nationalité française où on lui a écrit comme mention « Parle le français correctement ». C'est quelqu'un qui est traversé comme ça par une crise identitaire, se sentant français et ne se sentant pas reconnu comme tel.
Tu nous ramènes tout en rang.
Hey, celui-là. Comment vas-tu?
Ça va. Alors, t'as eu le visa?
On l'a, moins 5. Et toi, ils t'ont menacé?
Tout plaisant, moi, je suis juste venu faire réviser le matériel, c'est tout.
Bon.
À partir de cette situation-là, de cette rencontre des deux personnages, on aura un regard croisé comme ça sur deux réalités vues de chacun des côtés de la Méditerranée. Tarek est donc un fils d'immigré, incapable de parler arabe, et Georges est un pied noir qui se considère comme algérien, mais qui n'est pas considéré comme tel par les Algériens. À partir de là, Tarek et Georges ont commencé tous les deux une plongée dans leur mémoire, en allant ensemble visiter la famille de Georges. Les moments de l'histoire sombre de l'Algérie vont ressurgir. Le film ne cesse de déployer toute une résurgence comme ça du conflit algérien, notamment dans le quartier de Barbès, où Georges, un ami qui possède un bar hôtel, on va assister à différents conflits entre Algérien d'Algérie qui refuse à Tarek son côté français, c'est-à-dire son identité d'enfant émigré, qui vont refuser à Georges son identité africaine. C'est un Français qu'on essaye de protéger, que son ami algérien essaie de protéger.
Qu'est-ce que vous croyez que c'est l'Algérie, hein? C'est vous qui avez peur. Je suis très heureux, moi, à Oran. Samedi, j'étais à la plage. Le soleil, les embouteillages, les filles, maillots de bain, deux pièces. Après, on est allé manger un bon poisson avec mon ami Ramani. On a fini dans une boîte de rail, whisky glace à 200 dinars. Pendant 30 ans, tu t'es préoccupé si j'avais besoin de toi. Alors ta charité te la garde. Allez, dégagez. Allez-vous en la pasta.
Boum.
Ce qui intéresse Dominique Cabrera dans ce film, c'est d'exporter le conflit algérien de 90 en France et de montrer en même temps avec un recul hystérique par rapport à l'histoire de Georges, par rapport aux événements qu'il annonce, par rapport aux événements dans sa famille, de montrer comme cette guerre-là n'a jamais cessé de continuer depuis le début de la colonisation, de la conquête de l'Algérie. Et ce qui est le plus important, c'est que Georges est français. C'est un Français qui se refuse comme Français, mais va être confronté à la perte de sa terre, la perte de son olivret, qu'il devra accepter parce que le pouvoir a changé et qu'il ne peut pas aller contre le mouvement de l'histoire. De l'autre côté de la mer, c'est un film sur le renoncement. Pour les personnages, la question c'est de renoncer à sa fierté et être capable d'embrasser le réel, toute la complexité du réel et aussi toute la complexité d'une identité qui peut être multiple, à la fois pour un pied noir et pour un Français d'origine immigrée. Ces deux personnages-là sont symptomatiques d'un même problème, sont les deux côtés d'une même pièce et... Ce que nous apprend ce film, c'est que notre capacité à vivre ensemble résulte de notre acceptation de la complexité de notre identité.
Il m'est arrivé un drôle de truc, tu sais. Au café, à la Seigneur, j'ai dormi dans la même pièce que 10 personnes. Ça, c'est un truc que je détestais quand j'étais môme. Tu sais, les oncles et les tantes qui débarquent à 10 dans une pièce où d'habitude on dormait à 4. Et jusqu'à 22 ans, jusqu'à la fac, je dormais avec mes frères et sœurs et Je rêvais d'avoir une piole pour moi tout seul, avoir mon bureau tranquille. Et être seul, quoi. Surtout seul. Et là, à Barbès, j'ai eu un choc. J'étais vraiment heureux, Lisa. Sentir les autres bavarder, on était 10 dans le salon et. Mais j'étais bien.
Le problème de Dominique Cabrera, c'est un problème d'identité. Pour de l'autre côté de la mer, qu'on vient d'évoquer, ici c'était sur les identités multiples, c'est un problème, le problème algérien qu'on va retrouver dans d'autres films, notamment dans Grandir, autour du personnage de sa mère et de l'adoption de sa mère. C'est un problème, le problème du vivre ensemble qu'on va retrouver dans pratiquement tous ces films de fiction, quel que soit le problème, que ce soit Le lait de la tendresse humaine qui tourne autour d'une mère qui renonce à son foyer, de Nadia et les hippopotames qui parle des grèves de 95, ou de Folle embellie qui parle d'un asile psychiatrique duquel les malades s'échappent. Et j'aimerais revenir pour finir à son documentaire « Demain et encore demain » qui nous parle d'une année de la vie de Dominique Cabrera en 95. Dans ce film, elle va parler à la fois de politique, parce que c'est une année présidentielle, de société, parce que son fils entre en sixième dans un collège très difficile, et elle va nous parler de son rapport amoureux, car cette année-là, elle va rencontrer Didier Mokhtan, qui est l'un des fondateurs du CERES, le Centre d'études et d'éducation et de recherche socialiste. Je parle de ça parce que autour de ce personnage-là, les trois rapports se tissent. Et la crise entre l'amour, les histoires d'amour, l'intimité, donc, et le politique.
Je filme le lever du jour. C'est le premier jour de l'année 1995. J'ai décidé de filmer chaque jour cette année. Essayer de faire le point, d'y voir clair. Qu'est-ce qui m'arrive? La semaine dernière, pendant le repas de Noël, j'ai regardé ma mère, mon père, mon frère et ma sœur, et je leur ai balancé que je voyais clair dans leur jeu. Ils voulaient ma mort et depuis le début, je le savais. Après ça, la dinde est restée sur la table, le repas s'est arrêté, on a pleuré. On a parlé dans la cuisine. Pas tellement parlé, puisque du principal, je n'en démordais pas.
Dominique Cabrera, même si elle s'intéresse à des sujets durs, politiques, assez brûlants, filmés avec énormément de sensualité, énormément de douceur. Si je devais parler de son style, je parlerais de douceur. Douceur dans l'écriture, douceur dans les mouvements de caméra. C'est quelqu'un qui filme très très bien les scènes d'amour. Je pense notamment à une scène entre Olivier Gourmet et Yolande Moreau dans Le lait de la tendresse humaine. C'est quelqu'un qui cherche aussi la douceur dans les dialogues. Elle évoque toujours de manière très subtile des éléments très concrets de l'histoire contemporaine avec des dialogues qui ne sont pas directs. Si je devais parler de son cinéma, je dirais aussi que c'est un cinéma de la communauté. C'est quelqu'un qui cherche à donner à voir ou à donner à vivre à la fois un collectif et l'individu dans le collectif, le rapport de l'individu au collectif. Ça, on en a parlé pour De l'autre côté de la mer, avec le personnage de Georges, son rapport à la communauté des Algériens, son rapport à sa famille de pieds noirs qui ont décidé de vivre en France. C'est la même chose dans la majorité de ses films, où un personnage va essayer de se sortir d'un collectif, ou de montrer son individualité. C'est quelque chose qu'on retrouve dans ses journaux filmés. Elle parle à la première personne, elle parle de sa famille, Et au fond, ce dont elle parle réellement, c'est d'elle-même.
Allô ?
Oui ?
Christelle, t'es où, là ?
Je suis ma mère, là.
Bah, enfin, t'es cinglée ou quoi ? Tu sais où Rémi a trouvé la petite ? Elle est où, ta sœur ?
Vous êtes engueulée ?
Elle a pas dormi ici.
Moi, j'ai de la chance, hein. Mon couple, il a pas de problème. Mais ce bébé, j'arrive pas à m'en occuper. T'es la meilleure mère possible. À moi, c'est tout.
La petite, on la voulait. On la voulait, putain.
Dominique Cabrera est une cinéaste qui ne porte pas la parole de manière très forte. C'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant ou qui va chercher à faire des films choc ou coup de poing. Mais quand on s'intéresse un peu plus profondément à son cinéma, il s'affirme comme un cinéma très puissant, très physique et très émouvant aussi. Et au-delà de ça, sur l'histoire coloniale, la manière qu'elle a de penser les paradoxes, c'est-à-dire être à la fois français mais algérien, ou être à la fois algérien mais français, être à la fois arabe et espagnol, être à la fois français et quelque chose d'autre. En tout cas, la manière qu'elle a de montrer les identités comme quelque chose de multiple, de complexe, l'intérêt qu'elle porte à l'espèce de... On peut aussi dire une espèce de schizophrénie qui a en chacun de nous, en font une cinéaste très très particulière. C'est-à-dire les choses ne sont pas tranchées. Et pour revenir à l'histoire de l'Algérie, à l'histoire de la colonisation, à l'histoire de la France, ce que Dominique Cabrera nous dit dans ses films, c'est que l'histoire de la colonisation algérienne, c'est l'histoire de la France. Et à chaque fois qu'elle évoque ce sujet-là dans ses films, sont très pertinents.
Demain, on parlera du cinéma français avec la filmographie de Céline Sciamma, qui est plus jeune que Arnaud Desplechin, et de Dominique Cabrera, et on verra comment la sexualité est représentée dans le cinéma contemporain français. Merci Christophe Nangaoli, à demain.
À demain.
Et avant de recevoir Pascal Bonitzer, notre invité de deuxième partie, Auriane Jeancourt du magazine Transfuge est avec nous comme tous les mois. Et alors, ce mois-ci, nous allons parler cinéma.
Mais avec plaisir.
Festival de Cannes oblige, avec un coup de cœur et réservée à ce cinéaste abonné au Festival de Cannes, un cinéaste français, Bruno Dumont. Pourquoi ?
Eh ben écoutez, oui, je pourrais vous dire qu'a priori, c'est une de nos palmes fétiches. On aimerait bien qu'il l'ait, parce que Bruno Dumont, il a un parcours passionnant dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il avait fait d'abord ces films qu'on pourrait qualifier de mystiques ou de contemplatifs, comme L'Humanité, qui était un très très beau film. Et puis, on l'a redécouvert, la France l'a redécouverte avec Le Petit Quinquin. Et tout d'un coup, on a découvert un très grand cinéaste comique. Et là, le film qu'il sort, qui s'appelle Maloute, et totalement dans cette veine-là. C'est la veine comique du Petit Quinquin. Ça se passe dans le Nord aussi. Bruno Dumont connaît très bien le Nord et le film, à mon sens, comme personne. Sur la côte d'Opale, sauf qu'on est au début du XXe siècle. À la même époque d'ailleurs qu'il avait fait son Camille Claudel, donc il est aussi dans une époque qu'il connaît bien, Bruno Dumont, et avec des acteurs, bon, Fabrice Luchini, Valeria Bruni Tedeschi, qui jouent tous les deux un couple des Van Petegem, donc on imagine un peu une noblesse qui a l'air plutôt d'une haute bourgeoisie, assez comique, extrêmement snob, et on voit bien comme Bruno Dumont s'amuse à singer un peu le snobisme d'une grande bourgeoisie qui finalement n'est peut-être pas très différente à cette époque-là. époque-là et aujourd'hui. Et donc, il y a cette atmosphère criminelle qu'on trouvait un peu dans Le Petit Quinquin, mais une atmosphère criminelle burlesque. Et donc, voilà, il y a d'étranges meurtres sur cette côte d'Opale. Et puis, il y a ce personnage qui donne le nom du film, Malout, qui est un personnage de marin un peu troublant, qui est un personnage assez inoubliable. Donc voilà, je pourrais vous dire aussi qu'il y a des anthropophages dans le film. Enfin bref, on est dans le délire. D'ailleurs, dans l'entretien que nous donne Dumont, il dit « c'est un délire, ce film est un délire ». Et voilà, ce serait bien que Cannes récompense un délire.
Merci beaucoup, Auriane Jeancourt, d'être passée ce matin. C'est toujours un plaisir et à très vite.
À très vite.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité ce matin est Pascal Bonitzer. Bonjour.
Bonjour.
Et c'est pas en tant que cinéaste. Je sais que vous avez un film qui va sortir bientôt, le mois prochain. Pascal Bonitzer, depuis quelques années, vous êtes passé à la réalisation, à la fabrication des films. Mais vous avez commencé...
Il y a 20 ans, hein.
Ouais, ouais.
Ça fait quelques années, en effet.
Mais vous avez commencé par la critique cinéma. Et il y a un livre, justement, chez Capricci qui sort, qui a pour titre « La vision partielle », qui reprend vos écrits publiés dans les années 70 et même le début des années 80. À l'époque, vous étiez dans les cahiers du cinéma. À l'époque, c'était une institution. Et après avoir entendu Christophe Nangaoli décrypter la famille post-68 dans les films d'Arnaud Desplechin ou tout à l'heure Dominique Cabrera et les échos de l'époque coloniale française dans le présent français aujourd'hui, en attendant de voir comment il va nous parler de l'émancipation par la sexualité dans les films de Céline Sciamma, puis du nouveau regard qu'on porte sur le monde du travail avec Samuel Collardet, les films de Samuel Collardet. Cette idée de parler politique en parlant de cinéma, ça a existé et je pensais que ça avait complètement disparu.
Que la politique revienne aujourd'hui dans les sociétés en crise et dans l'Europe en crise que nous connaissons, ça n'est pas c'est pas très étonnant.
Mais qu'elle revienne dans la critique, dans cette fameuse critique cinématographique française, vous qui étiez...
La critique cinématographique française, c'est autre chose. Alors ouais. La critique... la critique actuelle, il n'y a plus grand-chose qui ressemble à ce qu'étaient les cahiers à l'époque.
Pourquoi, d'après vous ?
Rien, d'ailleurs, n'y ressemblait tellement. Bah, écoutez, ça, je ne sais pas. Ça, j'ai pas d'analyse particulière. Je crois que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une vision synthétique, ne serait-ce que du cinéma, parce que le cinéma n'est plus tout seul, il fait partie d'un ensemble audiovisuel beaucoup plus éclaté, il y a des médiums qui n'arrêtent pas de se multiplier, les choses sont difficiles à cerner, sans doute plus difficiles à cerner aujourd'hui.
Mais votre choix, par exemple, des cahiers du cinéma, diriez-vous aujourd'hui que c'était un choix dicté par vos engagements de l'époque, Pascal Bonitzer?
C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. D'abord parce que je ne suis pas venu au cahier. Si j'ai été, disons, un militant de base du gauchisme, j'ai participé aux barricades, des choses comme ça, etc. Mais c'est vraiment, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose d'essentiel, si on veut. Et non, ça n'a pas été quelque chose d'essentiel. Je me souviens très bien, en mai 68, on était comme ça dans des boulevards Saint-Germain, il y avait les gaz lacrymogènes, et je me souviens d'un camarade de fac qui est venu vers moi, les yeux comme ça, complètement larmoyants de gaz lacrymogènes et illuminés, et qui m'a dit « Pascal, c'est le plus beau jour de ma vie ». Pour moi, ça n'avait aucun sens. C'était pas du tout ça. Mon centre d'intérêt n'a jamais été foncièrement la politique, même si, disons, je l'ai, j'y ai joué un tout petit rôle. Le cinéma était mon centre d'intérêt, très puissamment et depuis très longtemps. J'avais fait la découverte des cahiers du cinéma à l'âge de 14 ans. J'avais demandé un abonnement à mes parents et je fais partie d'une génération, les baby boomers, pour qui, à l'adolescence, le cinéma a constitué une sorte de... Voilà, ce qu'on appelait la cinéphilie, qui avait vraiment un sens très précis à cette époque, a été pour toute notre génération quelque chose d'essentiel, de fondamental. C'est-à-dire, c'était pas seulement la découverte d'un art, c'était la découverte d'un monde. C'était une façon d'être. Ça a été une façon d'être au monde.
C'est votre
et de le rêver aussi beaucoup.
Ouais,
à travers le cinéma.
Ce sont les films qui vous ont ramené à la critique cinématographique ou les critiques et la lecture des cahiers.
Écoutez, par ailleurs, ma vie professionnelle, si on veut, a été le fruit de hasard. Dont j'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu miraculeux, parce que j'ai désiré être critique au Cahier du cinéma, mais je ne le serais jamais devenu si, par le plus grand des hasards, j'avais pas fait la rencontre, totalement par hasard, j'avais pas fait la rencontre d'un critique des Cahiers du cinéma.
Qui est
Qui était Michel Delahaye. Mmh. Il se trouve que Michel Delahaye avait une amie qui était aussi une amie, qui s'est trouvée être une amie de mon frère, qui était plus jeune que moi de 2 ans, qu'il est toujours, et je me suis trouvé un jour à dîner avec mon frère, cet ami, Michel Delahaye, et je lui ai dit que je souhaitais écrire au cahier. Ça m'est venu comme ça, et je pensais qu'il allait me rire au nez et me dire « Mais qu'est-ce que vous croyez, les cahiers du cinéma, on n'y entre pas comme ça, il faut avoir fait des preuves, etc. » Il m'a dit « Non, bah, très bien, écrivez. » Et il m'a même fourni le sujet de l'article, il m'a dit qu'il y avait un film dont les cahiers n'avaient pas rendu compte, et que pour lui c'était très dommage et même presque un scandale, c'était Le Mandat, film sénégalais de Ousmane Sambéné. Mmh. Ça a été mon premier article. Et le premier publié au cahier, c'était en février 1969, et forcément, je m'en souviens. Ensuite, il se trouve que je suis rentré dans une revue qui était dans un profond bouleversement. Voilà. Bouleversement qui reflétait, je pense, un certain bouleversement aussi dans toute la société française, et notamment dans la pensée, dans la théorie. Hein. Le structuralisme avait bouleversé toutes les vieilles structures de l'université, la linguistique, ça avait atteint le cinéma. On sait que Christian Metz a fait entrer le cinéma à l'université via une lecture linguistique des films, enfin des choses comme ça. Tout ça, donc, a atteint les cahiers, et je suis rentré dans les cahiers, je suis rentré au cahier, dans cette atmosphère, voilà.
Merci Pascal Bonitzer. Je rappelle, La Vision Partielle, vos écrits sur le cinéma sortent réunis chez Capricci. Et puis votre film, lui, il sort le 22 juin. Il a pour titre tout de suite maintenant, et c'est avec Vincent Lacoste, Lambert Wilson, Agathe Bonitzer et Isabelle Huppert.
Et Jean-Pierre Bacri. Et Pascal Grégory.
Ça parle de quoi? Très peu de mots pour le pas de
défendre. C'est une histoire au fond très romantique qui se passe dans le milieu le moins romantique qui soit, dans le milieu de la finance et de la fusion-acquisition.
Et c'est un film contemporain. Donc à très bientôt sur les ondes de France Culture. Merci beaucoup Pascal Panitzer.
Merci.
C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr. Émission préparée avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Delphine Baudet. Nous, on se retrouve demain pour la suite de notre portrait de la France par 5 cinéastes contemporains. Portrait établi par un jeune réalisateur, Christophe Nanga-Oli. Demain, il sera question des films de Céline Sciamma. Bonne matinée sur France Culture.